Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Une émission intitulée « De retour de l'enfer », pour faire simple, mais en fait le titre complet du livre de Claude Mazoric est « La Grande Guerre, quatre frères, quatre poilus, qui revient tous de l'enfer ». C'est aux éditions Alcide. Et Claude Mazoric, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un fils de ces quatre poilus dont je cite les prénoms, sinon les dates. Lucien, Armand, Albin et Georges. Georges étant votre père.
Oui, le cadet.
Le cadet, que vous avez bien connu puisque vous êtes vous-même né en 1932 et votre père est mort en 1982. Et je suppose qu'il vous a raconté la guerre ainsi que vos oncles.
Oui, parce que je l'ai questionné en historien. C'est-à-dire assez tardivement dans mon existence.
Mais souvent quand on est jeune.
Bachelier, voilà. Et je lisais un peu contraint, en quelque sorte, à me raconter cette guerre, avec leurs souvenirs et leur expérience en particulier. En même temps, ils étaient des juges de cette situation.
Oui. Alors justement, votre premier chapitre, alors vous aviez fait une conférence en 2014 pour le centenaire de la Première Guerre mondiale.
Mon souci était de rendre hommage à mon père et à ses frères, en manifestant la même surprise que souvent se manifestait quand j'en parlais, c'est-à-dire qu'ils étaient quatre frères, ils sont tous revenus du front et ils y sont tous allés. Et ils sont revenus, ce qui est exceptionnel.
Alors, votre premier chapitre dans cette édition aux éditions Alcide commence par 1913, Colorgue, un village languedocien. Dans la première partie, vous dites 12 tués au front, soit 4,2% de la population recensée en 2011, soit encore un homme sur 5 de 20 à 40 ans.
Oui. C'est-à-dire que Colorgue est un village martyr, d'une certaine façon.
Voilà. Et c'est un hommage, en fait, au village. C'est un village à la population rurale.
La guerre de 14 était une guerre faite avec le prix payé par les travailleurs manuels, en particulier les paysans, est considérable.
Oui. Votre père était lui-même ouvrier agricole, et on verra un petit peu son ascension sociale grâce, entre guillemets, à la guerre. Il a payé cher, hein, puisque...
Oui, mais lui-même le disait.
Oui. Blessure très, très, très importante. Alors, je reprends aussi page 76. Vous dites « Deux ont été tués au combat en 14, quatre en 1915, quatre en 1916, deux en 1917. » Donc, 12 morts dans le village de Colorgue. Et votre père et ses trois frères sont revenus vivants. C'est extraordinaire.
C'était le caractère exceptionnel de ce bilan, en quelque sorte. Ils ont été blessés, ils ont fait la guerre, j'ai retrouvé leurs états de service dans les registres militaires. C'est un miracle.
C'est un miracle.
On peut penser à un miracle. Ouais. Alors, comme ils ne croyaient pas au miracle, puisque c'était des Huguenots attitrés, il faut bien...
Inexplicable.
Voilà,
c'est-à-dire... Inexplicable. Enfin, si, il y en a un qui est explicable, celui qui était maréchal Ferrand. Il a toujours été dans les batailles, mais à l'arrière.
Non, pas à l'arrière.
Pas à l'arrière.
À la limite du front pour réparer les... Aujourd'hui, on dirait le train. À l'époque, c'était les charrois. Mmh. Et c'était le matériel roulant, en quelque sorte.
Ouais.
Il a fait la bataille de Verdun, le long de la voie sacrée.
Alors, vous donnez tous ces détails. Et moi, quand j'avais lu la conférence de 2014, où il y a des photos... J'ai lu en détail cette édition aux éditions Alcide. Ce qui est fascinant, c'est ce travail d'historien. Vous êtes un très grand historien de la Révolution française. Mais là, vous dites aussi, c'est une biographie collective, c'est un récit intime, c'est un récit familial, c'est une micro-histoire, mais qui peut s'appliquer, enfin qui ne s'applique pas pour ces quatre miraculés, mais qui s'applique en fait à tous ces villages de France.
Absolument. Ben, c'est-à-dire que moi, je suis, c'est ma profession, je suis historien.
Ouais.
Et j'ai voulu faire un travail d'historien, c'est-à-dire à l'inventaire des faits, à travers des sources, identifier les sources militaires en particulier, les données géographiques sur le village de Cologne, et puis aussi une représentation d'ensemble de la guerre de 14. Donc j'ai fait un travail d'historien à partir des sources, et j'ai construit un récit. Un récit qui est entièrement fondé sur l'exploitation des sources primaires. Alors,
avec une minutie, avec un détail, mais pas uniquement...
C'est le travail de l'historien.
Mais oui, mais vous êtes...
Aujourd'hui, tout le monde peut se dire historien d'une certaine façon, mais le travail de l'historien, c'est le travail à partir des sources.
Oui. Alors, vous aviez, pour cette conférence de 2014, demandé aux archives municipales les 12 cartons...
aux archives départementales.
Départementales, pardon. Ils n'avaient pas été ouverts depuis 1920, ces 12 cartons.
Quand l'école des Butilliers de Nîmes a fermé, les archives ont été déposées aux archives départementales. Mmh. Pas municipales, départementales, puisque ça concernait les gares. Mmh. Et ces cartons n'ont pas été ouverts une seule fois depuis 1920 jusqu'à ce que je les retrouve, grâce à la compréhension et à la bienveillance extrême du personnel magnifique.
Il
faut leur rendre hommage. Ils m'ont sorti les 12 cartons. Ouais. Alors, c'est énorme, parce qu'il y a des talons de chèques, il y a des emplois du temps, des cartes, des documents de pédagogie.
Il faut faire le tri.
Donc,
il faut tout regarder.
J'ai passé un temps, pas à Philly, mais à des filles, ça c'est sûr, à exploiter ces cartons pour tenter de reconstituer cette école des Butilliers de Nîmes.
Oui.
En donc plus, dans mon quartier.
Vous ne connaissiez pas son existence. Pourtant, votre père, vous en avez parlé.
Ah oui, mon père m'avait décrit l'école des mutilés.
Mais vous n'aviez pas eu les archives.
Je n'avais jamais eu les archives. Et j'ai constaté qu'il n'y avait pas grand-chose en dehors des documents, des petits opuscules ou des articles de documentaires publiés à l'époque où les écoles de mutilés fonctionnaient, c'est-à-dire de 1915 à 1920.
Alors, je donne un peu la table des matières. Vous commencez par les pertes militaires de la Première Guerre mondiale. Le chapitre premier, c'est Cologne. Le second, c'est avant 14, la jeunesse des quatre frères. Chapitre 3, les quatre poilus, donc votre frère. Et il faut prendre vraiment homme par homme.
Mon frère, mon père.
Votre père, pardon. J'allais dire les frères de votre père.
Voilà.
Le chapitre 4, la guerre. La guerre des trois aînés, la guerre de Georges. On sent cet amour filial.
C'est-à-dire, ça c'est le reflet direct de l'enregistrement de leurs états-service par l'armée elle-même.
Ah, y a tout. Moi je suis absolument fascinée par c'est ça la recherche historique.
Les quatre frères ont bataillé sur tout le front.
Ouais.
Depuis le sud de la Lorraine, avec la fameuse offensive de Joffre, qui était un échec monumental, jusqu'à la bataille pour le contrôle du Pas-de-Calais.
Ouais. Et alors, c'est pour ça qu'on parle aussi de biographie familiale, puisque vous dites bien, quand ils se sont mariés, enfin, il y a des anecdotes absolument incroyables,
Ils sont quatre frères, deux du premier ménage de mon grand-père, et deux du second ménage. Donc il y a des écartages entre eux, entre Lucien qui est né en 1878 et mon père qui est né en 1896.
Vous avez souvenir de toutes ces réunions de famille, mais le sujet...
On avait des liens très étroits avec mon père, évidemment, pour qui j'avais beaucoup d'admiration, et qui parlait avec humour de ces choses-là. Avec ironie, même.
Oui, quand il a reçu les médailles 50 ans après.
Il disait moi, ma fortune, au sens latin, fortuna,
fortuna.
Ma chance, c'est la guerre.
Oui.
Parce que j'ai fait l'école des Butilliers, et j'ai ouvert l'école au service d'un maître. Je suis devenu un fonctionnaire de l'État, et j'ai fait une carrière complète jusqu'à finir sa carrière comme inspecteur principal des douanes.
C'est pour ça que moi j'ai beaucoup apprécié ce livre en tant qu'historienne, mais aussi en tant que sentiment familial. Hein. On sent cette.
Alors il y avait une grande. Les quatre frères étaient très liés, avaient beaucoup de respect les uns pour les autres, et ils avaient une identité commune. C'était des Huguenots.
Oui.
Les quatre, il n'y en a qu'un qui était vraiment croyant, c'est l'aîné. Les autres me paraissaient. Marqué plutôt par le scepticisme. Mon père était déiste, très, mais alors profondément attaché à la tradition de Gonnotte. Mmh. Liberté, liberté de pensée en particulier, mmh. une capacité à se distancier de l'événement. Mmh. Mon père affectait même de dominer tout ça.
Ça devait être un homme extraordinaire. Mmh. Et est-ce que ces souvenirs de la guerre de 14-18 a été un déclencheur pour être historien, Claude ?
Non.
Non.
Il faut être honnête, je voulais être philosophe. Mmh. J'ai fait une classe préparatoire pour être philosophe. Mais j'étais absolument séduit, au sens propre du terme, emballé par le prof d'histoire de la classe préparatoire. J'étais au lycée Henri IV à Paris.
Le rôle des professeurs.
Il s'appelait Fournol, qui était ami de moi, qui était un professeur absolument bleu, éblouissant, précis, analytique, libéral, profondément libéral au sens philosophique du terme, c'est-à-dire ne rien effacer, ne rien cacher, tout savoir traiter du matériau brut pour en faire un matériau pensé. Mmh. Alors je me suis dit, mais c'est mon métier, je vais devenir historien. Et c'est Fournol lui-même qui m'a ensuite guidé vers Albert Souboul, qui était un de ses contemporains, ni moi. Mmh.
Et
j'étais allé voir Albert Souboul qui m'a alors là littéralement aspiré dans ce métier. Et j'ai fait, je continue.
Mais c'est vrai que vous êtes l'historien de la Révolution française, mais.
Oui,
là...
mais j'ai une passion pour l'histoire en tant que matière.
Alors en 2014, donc les 12 cartons, vous en faites donc cette conférence. Vous n'avez, c'est pas le sujet de développer l'école des mutilés, donc à partir de 2015, où vous replongez dans les archives de l'école des mutilés, qui a fonctionné de 1918 à 1920.
Elle commence pendant la guerre.
Ben oui, il faut dire que les pertes humaines sont tellement énormes.
Les blessés.
Oui.
Alors, c'était terrible de lire les archives elles-mêmes. Je pense à ce mineur d'origine catalane qui a fini cordonnier à l'Est en 1931 parce qu'il avait été amputé d'une jambe.
Alors, j'ai pas fini justement moi, la table des matières. Le chapitre 5, c'est la fin de la guerre et le retour à soi. C'est important, retour à soi, parce que Dieu sait que c'est difficile.
Ils retrouvent leur état social antérieur.
Oui. Et le chapitre 6, c'est donc l'école des mutilés de Nîmes, donc qui est ce nouveau chapitre que
Yann Couvelier... Il n'y a que mon père des quatre qui a fait l'école des mutilés.
Oui. Et vous le dites d'ailleurs, dès le 30 août 1915, s'est tenue à Nîmes, au siège du Conseil Général, une assemblée générale pour statuer une association type loi de 1901.
Voilà.
Alors, vous donnez toutes les subventions, 24 rue de Colbert, donc c'est tout proche de chez vous actuellement. Et vous parlez du financement, donc c'est important. Mais ce dont j'aimerais parler surtout, c'est comment on les rééduque. Et ça m'a fasciné entre l'éducation générale et puis l'éducation manuelle.
Alors, c'était la principale découverte que j'ai faite.
Ouais.
C'est de voir que c'était... Il y avait une grande imagination parmi les protagonistes de ces écoles de mutilés. D'ailleurs, dans le rapport même que Édouard Herriot avait fait en 1915, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas chercher à les scolariser, en quelque sorte. Il fallait répondre à des demandes.
Manque de main-d'œuvre.
En fonction des mutilations et en fonction des besoins, des nécessités du marché. Donc.
Certains il y avait un côté très pratique, en fait.
Certains sont mis en stage chez un artisan ou un entrepreneur, on leur apprend un métier qui tienne compte de leur handicap ou de leur vocation. Alors ça marche plus ou moins bien et de façon durable. Et puis il y avait aussi des sortes d'internes, mon père interne, qui s'est pris à zéro, si j'ose dire, et auxquels on assurait une formation... intellectuels qui étaient copiés sur les écoles primaires supérieures, pour dire en quelques mots. C'était
Et donc votre père a...
Donc mon père qui était ouvrier à l'école, et qui était d'ailleurs le bail de son frère Lucien qui venait de... qui était artisan, et qui venait, qui avait épousé une fille de paysan assez aisée, et qui venait de se lancer en quelque sorte dans la propriété viticole à Castelnau-Valence. Et bon, mon père était l'ouvrier agricole embauché comme bail par son frère aîné, Lucien, à Castelnau-Valence. Et il a devancé l'appel pour partir au front.
Alors, ce qui est extraordinaire, page 103, vous dites, par exemple, un document récapitulatif synthétique nous apprend qu'entre le 30 juin 1916 et le 30 juin 1917, 66 élèves rééduqués, ce terme est... ont été placés. Ouais. C'est vraiment typique un peu de cette époque.
Alors, il faut savoir aussi que c'était... Je m'excuse d'être un peu rapide en disant que c'était la gauche du gouvernement de défense nationale qui avait la charge, en quelque sorte, de la rééducation, de la réhabilitation, de l'utilisation, du sauvetage, en quelque sorte, des mutilés de guerre.
On ne parle pas des gueules cassées, là, dans les mutilés de guerre. C'est vraiment pour des personnes qu'on doit remettre dans le monde du travail.
S'ils le veulent.
Alors, je vois aussi, page 104, les formations. Il y a cordonnier, tailleur, tourneur, menuisier, ferblantier, sellier, bourrelier, surveillant agricole, dessinateur. Donc, vraiment, vous avez regardé tout cela en détail. Et il y a un côté assez drôle. C'est que ce sont tous des poilus qui ont fait la guerre, qui ont un certain âge, et le système disciplinaire est absolument incroyable.
Ça ressemble à des écoles primaires supérieures, à un internat. Par exemple, le soir, il n'y a pas le droit de sortir. Alors que c'était des anciens combattants, certains avaient même 30 ans.
Votre père, Georges Mazoric, voit même inscrit sur sa fiche pédagogique individuelle à découcher la nuit du 14 au 15 juillet 1918. C'est incroyable. Alors, je vous propose... On écoute la chanson qui est peut-être la chanson des révoltés, des rebelles, des déserteurs, des pacifistes.
Oui.
On écoute la chanson de Craon. Je ne sais pas si on la trouvera en occitan, mais c'est la chanson de Craon.
Oui.
Au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aux civlos. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance. Que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Claude Mazoric pour parler de son livre « La Grande Guerre, 4 frères, 4 poilus qui revint tous de l'enfer » aux éditions Alcide. Un de ces 4 poilus est Georges Mazoric, le père de Claude. Et il n'était pas à Craonne puisqu'il était blessé à cette époque. Oui. Et alors sa blessure, c'est terrible, elle est racontée dans votre livre.
Tout mon cornillier, je la raconte. J'ai fait l'itinéraire, j'ai refait à pied avec un de mes étudiants, mes collègues, enfin, jeunes collègues. Nous avons refait l'itinéraire qu'il a emprunté et qui est aujourd'hui balisé, et qui est au nord de la Champagne Pouilleuse, au pied du Mont Cornillier. C'est un terrain militaire entouré de fils de fer barbelés, mais on a passé les fils de fer barbelés pour aller jusqu'au 15 mat. Et j'ai retrouvé l'endroit où mon père a été blessé.
Blessé.
Il a attendu presque 48 heures avec une épaule en moins et sauvé par les brancardiers qui l'ont ramené à l'arrière.
C'est pour ça que votre livre, il est lié à des archives, mais je trouve qu'il montre vraiment par ses détails la réalité.
Hein, il faut le voir.
C'est comme presque une image cinématographique. Hein, quand on lit...
Parler des tranchées, sans les avoir vues, ça me paraît difficile.
Ça paraît difficile.
Et quand on voit ce qu'était la tranchée, par exemple, par laquelle ils avaient gagné le pied du Mont Cornillier, c'était absolument... Alors, il y a une petite partie qui est sauvegardée, un peu comme une relique. L'héroïsme, la folie,
Et les commandants qui envoient la chair à canon.
Mon père, ils ont tous été tués, ceux de son commando. Il est le seul qui a été blessé, qui soit revenu. Mon père parlait tout le temps de la chance.
Le hasard.
Le hasard. L'idée que il n'y avait pas de prédestination. Mon père, il ne comprenait pas la prédestination. La décision d'envoyer cette escouade pour observer le Mont Cornillier, ils sont tous tués. Lui, il revient blessé. Normalement, il aurait dû tuer. Tous les autres ont été.
Alors, page 110 aussi, vous parlez de Georges Mazoric, votre père, bien plus tard. Il acheva sa carrière en 1959 comme inspecteur principal en poste à la direction des douanes de Chambéry. Donc vous êtes né à Thonon, vous êtes né en Savoie.
Mon père était douanier aux frontières. Il a commencé sa carrière de douanier dans le Nord, à la frontière belge, puis ensuite à Marseille, à l'Estac. Et ma mère, qui était savoyarde, voulait retourner en Savoie. Mais en Savoie, la frontière était avec la Suisse. Et donc, ils se sont trouvés à Évian et à Thonon.
C'est pour ça que je parle de biographie familiale, puisque à la page 108, vous parlez justement de votre mère, vous parlez de vos deux sœurs qui seront résistantes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et vous parlez après de la suite, et c'est d'une ironie incroyable, puisque vous dites « Georges, qui ne fut dans la guerre de 14 qu'un soldat de seconde classe, fut élevé en 1970, hein, à plus de 74 ans, au grade de chevalier de la Légion d'honneur ». C'est incroyable.
Et on comment on revalorise sa pension cette année-là. et alors, je veux dire que ça, la pension militaire de mon père m'a payé mes études. Mmh. Parce que c'est pas avec une carrière de fonctionnaire des douanes, à l'époque commis principal des douanes, mmh. qu'il aurait pu payer des études à ses enfants.
Voilà.
Donc c'est la rétribution républicaine pour les anciens combattants qui a fait de mes soeurs et de moi non pas des fils de voyer à l'école, mais des fils de pensionnés d'État.
Mmh. Alors c'est pour ça que dans...
Moi, je crois beaucoup à la République.
Dans l'épilogue, hein, que vous appelez Destin, hein, vous parlez de la microstoria, mais combien ça... Comment dire, ça fait réfléchir justement sur la grande histoire.
Alors, et ça me donne beaucoup à l'historiographie italienne, sur la microstoria.
Ouais.
L'histoire est toujours une histoire statistique globale qui étudie les grandes masses, mais l'histoire vécue ne se comprend que si l'on descend jusqu'au niveau de l'expérience individuelle.
Alors c'est pour ça qu'il y a votre père, vos trois oncles, il y a les ouvriers agricoles, enfin les habitants de Collorgues. C'est pour ça qu'il faut revenir en fait à Collorgues pour élargir après.
L'une des conséquences considérables de la mobilisation des hommes pour partir au front, c'est que les femmes se sont retrouvées à la tête des exploitations, quelquefois minuscules, et elles sont en difficulté pour apprendre le métier, semer, s'occuper de la vigne, pas simplement ramasser les fagots, hein, et les sarments. On voit que pendant 4 ans, la France de l'arrière a vécu les couches populaires un enfer.
Un enfer,
c'est l'idée. Venu comme conséquence d'une guerre lointaine.
Oui, c'est pour ça que vous commencez par les pertes générales. Hein,
La guerre de 14, c'est la plus grande guerre que l'humanité ait connue jusqu'à la suivante.
Oui. Donc merci Claude Mazoric de nous accorder cet entretien, parce que lire le livre c'est une chose, mais vous rencontrez vous, né en 32, toujours vaillant intellectuellement, continuer la recherche, parler de l'histoire.
Je m'entretiens en continuant à exercer mon métier, cette fois-ci de façon libérale, non pas pour des obligations professionnelles. Tout simplement parce que c'est la passion que j'ai pour mon métier, que j'ai exercé avec, pas seulement avec le sens du devoir que tout fonctionnaire digne de ce nom doit respecter, mais par plaisir. Le plaisir de la recherche.
Le plaisir de la recherche, le plaisir de l'histoire. Et je voudrais simplement conclure sur votre ressenti dans la situation actuelle.
Eh bien, l'innocence. Les gens sont innocents. On parle de la guerre comme si c'était un épisode inévitable, nécessaire, utile. La guerre est une horreur. Et la guerre de 14 en particulier, qui est venue comme une conséquence
de ces alliances.
Des alliances diverses, de représentations multiples, etc. Mais personne ne pouvait imaginer une guerre de ce type, c'est-à-dire une guerre industrielle qui commence à être industrielle avec une exposition des soldats qui rappelle les guerres antérieures.
Oui. Et actuellement, on est dans la guerre des drones, on est dans la guerre technologique.
Il faut tout faire pour empêcher les guerres.
Merci Claude, merci pour cette belle rencontre. Merci à vous.
C'est moi qui vous remercie de vos attentions.